Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous du lundi, avec sa bande-annonce pour un avant-goût de ce qui va se passer cette semaine. Bande-annonce 100% énervée, avec en ouverture, cinéma bien sûr, Cannes oblige.
Nous déclarons le Festival de Cannes ouvert.
C'est une descente en apnée dans un univers qui est celui de l'histoire.
34 heures de cavale ce soir pour Jacques Mesrine et François Besse depuis leur évasion de la santé hier matin.
Et je vis avec les personnages, je ne vois absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur.
Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies.
Make our planet great again.
Enfin, de toute manière, c'est toujours des questions de pouvoir. Hein. Donc, plus tu vends de disques, plus t'as de pouvoir. Plus tu remplis les salles, plus t'as de pouvoir. Tu gagnes 2 victoires, j'imagine que ça en donne un peu. En tout cas, j'espère.
C'est aussi tout le mythe de la guerrière.
Des côtes salées.
Qui se bat pour faire la maison.
Déchirée.
Est-ce qu'elle va y arriver?
L'étrange pâleur d'un secret.
Mathéo, c'est un peu ce que j'aurais rêvé d'être. Il a une belle gueule de romantique un peu sombre.
Si c'est pour faire un western qui ressemble à ceux de Clint Eastwood, mais qui sera peut-être moins bien, ça vaut pas le coup.
Beaucoup de choses cette semaine, des femmes puissantes. Jeanne Masse en Rouge et Noir, ça sera jeudi prochain. Elle sera notre invitée. Fia Ménard, une performeuse guerrière, c'est demain avec à ses côtés Chaton en live pour un nouvel album Brune Platine. Dans le NRV La Suite, tout à l'heure, il y aura un débat sur la place des femmes dans la musique. Des hommes aussi, bien sûr, cette semaine, le dessinateur Jean-Pierre Gibras et Marc Lévy, le romancier, pour mercredi. Et là, ce soir, en studio avec nous, le shérif du cinéma français Bertrand Tavernier et un cavaleur, François Besse. Générique.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau. Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV et nous sommes lundi 13 mai. Bienvenue à toutes et à tous et doublement bienvenue puisque vous pouvez nous écouter dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast. Ou alors vous attendez 22h à minuit. Jusqu'à minuit, à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, une émission haut les mains avec vous, Bertrand Tavernier. Vous dégainez à nouveau dans l'Ouest le vrai, votre collection de romans western chez Actes Sud. Au programme, Furies de Niven Bush, un scénariste star de l'âge d'or d'Hollywood. Une tragédie grecque au Far West. Bertrand Tavernier, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, François Besse, le roi de l'évasion, mais pas fiscal, revient sur ses braquages, ses 7 évasions, les peines de prison, dans Cavale, parcours d'une ex-figure du grand banditisme devenu honnête homme au sens classique du terme. François Besse, bonsoir.
Bonsoir.
De l'algorithme pour Marion Guilbeault ce soir, Marion ?
Laurent, un algo qui se fait la malle, c'est normal, hein ? C'est celui de François Besse.
Et dans le NRV La Suite ce soir, toutes pour la musique, les femmes s'en mêlent et dénoncent la valse des machos, Benoît Lagane.
Oui, ce soir ce sera R.E.S.P.C.T. Respect, Laurent. Les femmes engagées des métiers de la musique lancent un manifeste contre le sexisme dans la musique et on fait le point avec nos invités ES, des femmes et un homme, la musicienne Juliette Armanet, le directeur artistique du festival Rio Loco Hervé Bordier, la productrice Anaïs Letout du collectif Femmes F.E.M.M., Sophie Rosemont, journaliste et auteure de Girls Rock qui vient de paraître chez Nil, et Marion Guilbeault, notre programmatrice live qui sera là, bien évidemment.
Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
On va parler Cannes, on va parler Western, on va parler Cavale avec vous deux, François Besse et Bertrand Tavernier. Mais avant de commencer, je voulais qu'on revienne sur Jean-Claude Brissot qui nous a quittés samedi dernier. Jean-Claude Brissot, le cinéaste de Bourrée de Fureur, de Céline, Noce Blanche, de L'Ange Noir, un cinéaste cinéphile, passionnant, avec des films inouïs, érotiques, fantastiques, travaillés par la mémoire du cinéma d'Hitchcock, entre autres. Petit montage de quelques-uns de ses films.
Puis-je vous poser quelques questions?
Vous voulez que je vous parle d'elle?
Je préparais un film policier.
Raconte-moi ce qui s'est passé.
Tentative de suicide. Noyade et somnifère.
Il a essayé de me violer.
J'avais pris l'habitude de ne choisir les comédiens qu'après des essais effectués sur les séquences les plus difficiles.
Mais il y aura du texte au moins dans votre film.
Oui. Vous savez, je peux pas me permettre de faire un film porno. Cette fois, j'avais sélectionné 2 scènes, dont une assez érotique.
Ne pense plus à rien. Laisse les pensées venir tout doucement.
Tu l'as vu en lévitation ?
Je crois l'avoir vu en lévitation.
Tu commençais par voir des lumières, des sortes d'apparitions. J'ai souvent fait des rêves étranges d'extase, d'extase violente.
Une fois ?
Mystique.
Je me suis sentie transportée ailleurs.
Ça ressemblait à des orgasmes, mais en beaucoup plus intense.
Je sentais pas son pouls. Elle avait les bras, les jambes écartées et les membres complètement raides.
C'était super.
Je préparais un film policier.
Travail.
et on joue en même temps.
Je veux aussi donner le sentiment d'une rencontre avec extase mystique. Quand les comédiennes montent vers le plaisir et qu'elles jouissent.
Les miracles se soignent mieux, plus vite, et ça fait moins mal que les infirmières.
Enfin, je suis très ému parce que, en fait, j'adorais ce cinéaste et il me refaisait croire au cinéma français quand sortaient ses films. On l'avait reçu aussi pour son dernier film, au-delà d'ailleurs de toutes les polémiques. Bertrand Tavernier, vous le connaissez.
Moi, j'ai longtemps été très très proche de Jean-Claude, puis la vie nous a séparés. J'avais vraiment une grande affection pour ses films, pour dès un jeu brutal, pour De bruit et de fureur, au-delà de toute la polémique que ça avait suscité. Et puis après, pour les films qu'il a réussi à bricoler. Oh
ouais. Chez lui.
Il y en a qui sont moins réussis que d'autres. Je suis pas un fou de L'Ange Noir avec Sylvie Vartan, qui était une de ses grandes égéries.
Égérie hitchcockienne, ouais.
Oui, mais il y a...
Mais Les Savates du Bon Dieu.
Mais il y a beaucoup de films qui sont très... À l'Aventure est un film tout à fait personnel et fort, avec des moments très très forts, des moments uniques. Être avec lui et l'entendre parler de cinéma, c'était extraordinaire. Il mettait le son très très fort, et quand il regardait Alien chez lui sur Home Cinéma, les chats partaient. J'ai vu de chats filaient à l'étage en dessous, ils ne pouvaient pas supporter le son d'Alien. L'entendre parler des aventures du capitaine Wyatt, du réveil de la sorcière rouge. D'ailleurs, sa maison de production s'appelait les films de la sorcière rouge, en hommage avec ce film avec John Wayne que j'adorais. On était parmi les personnes à partager.
Vous aviez plein de choses en commun dans votre cinéphilie.
Je l'adorais. Alors, ce qui nous a un peu séparés, c'est sa manie du complot. Parfois, il se voyait comme exclu par tout le monde, chassé par les gens, de manière un peu exagérée. Et je pense qu'il a dû très, très souffrir quand il y a eu un mouvement qui a bloqué un mouvement féministe qui a interdit son hommage à la Cinémathèque. Au nom d'une idéologie extrêmement, dogmatique, parce que j'ai parlé à beaucoup de comédiennes qui ont travaillé avec lui, qui se sont pas senties du tout exploitées. Il y avait un côté, un mélange de cet ancien communiste, professeur, libertaire. Il y avait un côté Léo Ferré.
Ouais.
Oui, chez lui. Mais Léo Ferré aussi, qui a écrit des chansons à scandale, comme Petite, qui écrivait des... Il y avait ce côté-là, ce côté libertaire, un côté libertaire et un côté, en même temps, amour du cinéma et de la culture, des lettres, des textes, je trouve extraordinaire. Dans ses derniers films, il y a des moments qui ne ressemblent à rien de ce qu'on pouvait voir. Oui, et je voudrais vraiment le saluer parce que il a amené quelque chose de très très fort, et j'ai jamais oublié le choc de Un jeu brutal, notamment.
Son premier film, ouais.
Mais vraiment, qui était... Avant, je crois qu'il avait fait aussi un film qui était très réussi aussi.
Avec en doublure à l'écran, Kremer, qu'il adorait aussi.
Oui, qui était son double, et qu'il a perdu après, un peu parce que Jean-Claude, il pouvait être brusque, il pouvait ne pas être diplomate.
Un jeu brutal, c'était vraiment la façon même qu'il avait de faire son cinéma.
Oui,
ouais.
et je pense qu'avec Noces Blanches, il a un peu... perdu Kremer, parce que tout le film s'est centré un peu autour de Vanessa Paradis.
Ouais.
Et Kremer s'est senti exclu. Et je l'avais prévenu, Jean-Claude. J'ai dit, là, tu travailles avec une vedette en face de toi, sois proche de Bruno, soit...
Protège-le,
soit avec lui. Et je pense que ça aurait pu être évité, parce que c'est dommage qu'il ait perdu Bruno.
François Besse, vous connaissiez aussi le cinéma
de
Jean-Claude Brissot.
Voilà, je l'ai fréquenté, bien évidemment, un peu.
Ah bon?
Mais je ne le connais. Non, fréquenté au sens,
sens
du cinéma, bien évidemment. Je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, je partage tout ce qui a été dit jusqu'à présent, parce qu'effectivement, je retrouvais en lui des parties de rébellion à travers ces personnages. Et moi, ça me parlait beaucoup.
François Besse, Le Cavaleur, Le Roi de l'Évasion, vous vous connaissez l'un l'autre? Bertrand Tavernier, vous connaissiez?
Non. Enfin, je connaissais, j'avais
vu... Oui, de réputation.
De réputation, mais... je le connaissais, on s'était, je pense, jamais vu. Non
nous nous sommes rencontrés à l'instant.
Oui,
c'est très bien. Absolument. François Besse, vous revenez sur votre parcours donc dans Cavale, de Mesrine à la liberté, l'histoire vraie du roi de l'évasion. Le cinéma s'est intéressé à Mesrine. Hein. Je me souviens du film de Jean-François Richer avec Vincent Cassel. Mathieu Amalric jouait votre propre rôle. Mais est-ce que le cinéma s'est intéressé à vous tout seul?
Absolument pas, puisque aucune question ne m'a jamais été posée. Et lorsque j'ai rencontré Mathieu, un jour, une personne nous avait demandé de nous rencontrer. Ouais. Il s'est excusé d'avoir fait mon personnage sans jamais m'avoir rencontré.
Comment il a expliqué ça?
Certainement pour des raisons personnelles.
Il ne cherchait pas à rencontrer le roi de l'évasion.
Bah, disons que de mon côté, je refusais aussi de participer à une quelconque mise en valeur économique, une histoire qui est beaucoup plus profonde socialement. Si quelque chose voulait être conçu avec ma participation, il fallait que ça inclue le fait que une révolte ne se fait pas sans être motivée.
On va parler cinéma avec vous deux dans quelques instants, mais avant de commencer, je vous ai demandé des sons à chacun pour faire plus amplement connaissance. Bertrand Tavernier, on vous connaît énormément, mais vous avez choisi quelque chose de circonstance pour ouvrir cette émission. Un acteur dans votre film, que la fête commence.
On se défait du régent. On fait reconnaître à sa place le duc du Maine. On dénonce les traités de la Triple Alliance avec l'Angleterre et la Hollande, qui est l'œuvre de ce misérable Dubois, dont on ne dira jamais assez l'ignominie. On jette le prétendant avec une flotte sur la côte d'Angleterre, on met la Prusse, la Suède et la Russie aux prises avec la Hollande, on donne la Sardaigne au duc de Savoie comme acquis au pape, et on couronne Philippe V, roi de la moitié du monde. Voilà.
L'opération est d'envergure.
Ben oui.
Ça vous fait même encore sourire.
Oh, ça me fait même rire, d'abord parce que je trouve que c'est un très 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 bon dialogue, un peu emprunté à Dumas par Jean Ranch et moi-même, mais que l'idée d'avoir ce marquis breton qui est dans une cuisine et qui est en train...
C'est Jean-Pierre Mariel, bien
oui,
sûr.
Qui est Jean-Pierre Mariel, avec sa voix... Qui je rêvais de donner des textes comme ça, parce qu'il était cantonné dans des rôles naturalistes, de quadragénaire, comme ça, et je trouvais qu'il avait un côté... Il avait un côté hugolien, il avait un côté shakespearien, Mariel. C'est Don César de Bazan, là, de la pièce de Riblas. Et là, le voir mettre l'Europe à feu et à sang, alors qu'ils sont à deux ou trois dans une misérable cuisine. Et là, la réplique qu'avait ajoutée Jean Ranch, je crois qu'elle est dite par Bernard Jarry, l'opération est d'envergure, me plaît énormément. Ça, oui, ça me fait rire. Et puis, c'est une occasion de rendre hommage à cet homme que j'aimais tellement. J'aimais Jean-Pierre. Oui. Et c'est le dernier des quatre... Lascar que j'ai dirigé au début, qui disparaît, après Jean Rochefort, après Noiret, après Galabru. Et Mariel, son amour du jazz.
Qu'il partageait avec vous.
Sa passion pour le jazz. On allait dans les clubs ensemble. Son goût pour la littérature américaine, son goût pour le théâtre qui lui fait jouer les pièces de Sanders, de Pinter. Il va aller explorer tout un théâtre qui n'était pas à la mode. Mariel avec Rochefort, avec Delphine Seyrig et tout ça. Il y a tout ça chez Jean-Pierre qui faisait que, d'abord, c'était un compagnon merveilleux. On s'amusait énormément avec lui. En même temps, un grand angoissé, un grand inquiet et un acteur, enfin, dans tous les matins du monde. Il est prodigieux, prodigieux, prodigieux.
Un son nature et découverte pour vous, François Besse. C'est beau, un fleuve la nuit, François Besse. Pourquoi on écoute ce son?
Surtout pour la première fois, lorsque vous êtes livré à vous-même, puisque vous venez juste de quitter votre famille et que vous êtes dans l'errance et vous vous approchez du fleuve.
À quel âge?
17 ans. Et j'ai quitté ma famille cette nuit-là.
C'était la première évasion?
Une forme d'évasion, effectivement.
Les relations avec votre père étaient difficiles?
Elles étaient devenues difficiles, oui.
On reviendra sur cette histoire dans quelques instants. Alors lui, il est maquillé comme une voiture volée, il est habillé avec la jupe de sa mère, c'est presque psychose en fait. C'est la dernière sensation québécoise, Hubert Lenoir recommence dans le NRV. Commencer, c'est signé Hubert Lenoir, un extrait de Darlène, son excellent premier album. Il avait été, je le rappelle, notre invité il y a quelques semaines. Merci Marion Guilbeault, c'était au NRV.
Do you want me to beg? Do you want me on my knees to you for his life?
I'd hang him anyway.
It's me you should have hung, because now I hate you in the way I didn't know a human could hate. You won't see me again until the day I take your world away from you.
Le nouveau rendez-vous.
Juanita!
Laurent Goumard sur France Inter.
Un extrait bien furieux de Furies, le western d'Anthony Mann en 1950. Bertrand Tavernier, vous l'avez revu récemment ?
Oui, 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 bien sûr. C'est un film extraordinaire d'Anthony Mann. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas disponible en France, qu'il n'y ait pas d'éditeur. Le seul éditeur, c'est Criterion, qui a fait une édition luxueuse, magnifique de ce film, dont la photo est à tomber par terre, et l'interprétation aussi. Et c'est un film qui est très fidèle au roman.
Ah très, d'accord, c'est ça que je me posais comme
question. Fidèle, le roman, très fidèle.
Le roman de Niven Busch.
Oui, oui, Niven Busch.
Busch date de 48.
Oui, il date de 48. À un moment, Niven Busch a écrit deux titres qui ont été tous les deux adaptés dans des films célèbres. Il y a Duel au soleil. Et Les Furies. Et Les Furies, c'est le contraire de Duel au soleil. Duel au soleil, tout ce qui est dans le livre est super, comment dire, est transformé par Selznick dans des décors gigantesques. Comme disait Bush, quand il fait un rassemblement des cow-boys, il y en a plus que n'en comprenait tout l'État du Texas à ce moment-là. Là.
C'est une sorte de Cécile B2000 du western. Quoi.
C'est l'inflation perpétuelle. Et moi, ce qui fait que j'ai des problèmes avec ce film. Anthony Mann et son producteur, eux, vont rester, et le scénariste Charles Schnee, vont rester beaucoup plus proches du livre, vont garder les proportions dans leur hanche, vont garder dans les paysages. Il n'y a pas d'inflation. Et au contraire, il y a une rigueur dramatique avec des scènes très puissantes, notamment la scène du lynchage du Mexicain, qui est une des scènes les plus fortes du cinéma de l'époque.
Alors, on va rentrer dans le roman et dans le film dans quelques instants. C'est un roman donc de Nievenbouch, qui date de 48. Il vient d'intégrer votre collection qui s'appelle L'Ouest, le vrai, chez Actes Sud, qui a pour enjeu de faire connaître les auteurs et des romans de western aujourd'hui méconnus. L'Ouest, le vrai. Et L'Ouest, le faux, ça serait quoi alors?
Bah, c'est à la fois des romans pulp, des romans qui contiennent tous les clichés tels qu'on les décrit, le décrivent les gens qui ne connaissent pas le western. C'est-à-dire des héros habillés en blanc contre des méchants habillés en noir, ce qui n'a existé la plupart du temps que dans l'imagination des gens. Des histoires avec des sans personnages de femmes, alors que dans plusieurs romans que j'ai fait publier, les personnages de femmes sont
extrêmement puissants. Cas de Furies, non mais c'est dément.
Oui, là c'est elle l'héroïne, c'est elle le pivot dramatique du film, même si évidemment c'est un affrontement, on peut dire presque oedipien,
entre un père
et sa fille.
Père qui est propriétaire d'un immense ranch, qui est une sorte d'empire, on va dire.
Un empire, puisqu'il fait même ce qui est un trait extraordinaire, qui provient sans doute, Bush ayant beaucoup travaillé sur la réalité de l'époque, je pense ne l'a pas inventé, il imprime sa propre monnaie, qui est une monnaie différente de la monnaie fédérale. On paye sur tout son empire, qui comprend une gare, qui porte son nom, qui comprend une ville.
C'est
une sorte d'État dans l'État.
Tout à fait.
Et il paye ses employés avec sa monnaie. Ça, je trouve. Et sa fille,
qui a le même tempérament que son père,
va finalement, quand son père va vouloir se remarier, ça va entraîner un conflit entre les deux, et chacun des deux s'arc-boutera sur ses positions, et il y a un affrontement terrible, terrible, terrible.
On peut d'abord présenter le romancier scénariste, d'ailleurs c'est comme ça que vous commencez la postface.
Oui.
C'est l'auteur de Cavalier du désert, de La vallée de la peur.
Oui, La vallée de la peur qui sort
en DVD,
c'est antique, dans la collection de Sidonis, qui est un western formidable, mais aussi un western qui, de la même façon, qui est proche des Furies, qui est un western sombre où Robert Mitchum joue un personnage qui est hanté par son passé. On avait dit que c'était le premier western qui se rapprochait du film noir. C'est un western aussi freudien. C'est aussi une tragédie grecque. C'est un homme hanté par sans doute un drame qui s'est passé dans son enfance. Il est hanté par des cauchemars et il est entraîné progressivement à tuer. Malgré lui, il est entraîné dans une sorte d'engrenage de la violence. Alors, moi, j'avais repéré que le scénario du film s'inspirait un peu du Maître de Ballantrae de Robert Stevenson. Et j'avais écrit à Nievenbouch à l'époque, j'étais assez jeune, et j'avais reçu une longue lettre de lui en me disant « Vous êtes la première personne qui est notée ». En effet, il dit « Quitte à voler une idée, autant la voler à un grand auteur. »
À un grand auteur.
Hein, et voilà. Et donc, c'est un peu comme le Maître de Ballantrae.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, donc,
Nievenbouch? C'était quelqu'un qui, contrairement à d'autres écrivains de l'Ouest, ne s'est pas formé sur le tas. Il n'a pas été rancheur, éleveur de bétail, comme plusieurs d'entre eux qui sont devenus ensuite romanciers. C'est plutôt quelqu'un qui vient de New York, qui a commencé en écrivant des articles dans le New Yorker. C'est plutôt le monde de la sophistication. Et il s'est trouvé, un peu malgré lui, entraîné à Hollywood. Et là, par accident, il va être amené à écrire un scénario d'un western pour William Wyler, qui est le Cavalier du désert. Et à partir de là, ça va beaucoup l'intéresser. Et il va prendre un an pour écumer le Nouveau-Mexique et le Texas, où il va trouver, en allant dans les archives, en parlant avec des gens, plusieurs histoires qui vont nourrir à la fois les Furies et la Vallée de la Peur et ses autres westerns.
Client de western aussi, François Besse, de votre côté?
Pas vraiment.
Pas vraiment. C'est une culture que vous ne maîtrisez pas.
Parce qu'il y a trop de violence pour moi. Et l'affrontement blanc-noir,
ou le racisme qu'il engendre, bien évidemment, ou l'élimination, par exemple, d'un génocide, les Indiens, les Amérindiens plutôt, ben voilà, ça me gênait quand même un petit peu.
Ça a été traité, hein, il y a
tout
des cinéastes qui ont pris ce sujet,
et des romanciers
le génocide,
aussi,
mais... et les romanciers, et en ont parlé comme d'un génocide, les romanciers avant les cinéastes, mais ils en ont parlé. Le western a été aussi un des gens qui, où certains cinéastes se sont vraiment engagés dans une lutte contre le racisme avant d'autres genres de cinéma, parce que le western est un genre très hospitalier qui permet d'introduire beaucoup de thèmes. Robert Aldrich disait que il avait réussi avec Ulza Nasred, avec Führer Apache, à parler vraiment de la guerre du Vietnam.
À travers,
il disait que c'était à travers Jean Vietnam, il disait que c'était, j'abordais absolument la guerre. Donc c'est moi ce que j'aime énormément dans ce genre, c'est que c'est son ampleur et sa capacité à aborder des thèmes extrêmement importants.
Mais je sais même, parce que vous aviez défendu des droits dans le cadre des accords de libre-échange à Bruxelles il y a quelques années, vous aviez pris le western pour amplifier votre thèse contre le libéralisme.
Mais
c'est-à-dire pour vous, le lien politique...
De certains films, parce qu'il y a des films qui sont très conservateurs et très réactionnaires. Absolument. Mais il y avait des films où on voyait la lutte des petits éleveurs contre les grands ranchers, et c'était exactement le conflit qui nous opposait, les grands ranchers déniant tous les droits aux petits éleveurs d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès au pâturage, leur interdisant de clôturer leurs champs. Alors c'était la même chose où on interdisait à la France d'avoir des accords qui protégeaient son cinéma ou comme ça.
Vous êtes allé protéger ces accords, justement.
Oui. Alors je disais que il faut lutter contre les Américains, il faut utiliser les armes des Américains et dire que les cinéastes américains ont fait des films qui épousaient notre cause. Ça avait été très marrant. La tête de comment il s'appelait là, le Lord machin qu'on voyait, le Britanne là. Quand on lui disait ça, ça a été un de mes grands plaisirs. Ça.
Pourquoi le lien avec le cinéma, pour vous, ça a commencé justement à l'âge de 13 ans, autour du western? Qu'est-ce que vous aviez repéré dans le western, alors que vous étiez très jeune, pour avoir eu envie, véritablement, de faire du cinéma, Bertrand Tavernier?
C'est peut-être lié aussi à ma situation personnelle. J'étais un enfant malade. J'avais été tuberculeux, j'avais une santé fragile à l'époque, et le western, c'était une manière de m'évader. Je voyais des grands espaces, ce que je n'arriverais jamais à faire. Je serais incapable de faire des chevauchées à cheval, même de monter sur un cheval. Mais la seule fois que j'ai essayé, je me suis cassé une jambe.
Vous en avez filmé?
Oui, j'en ai beaucoup filmé, mais c'était une manière de survivre à toutes les tares physiques. C'est s'identifier à Gary Cooper était un moyen de résister contre mes problèmes de santé.
Bertrand Tavernier, on sait que demain c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Vous allez descendre, j'ai vu qu'il y avait un hommage qui vous était rendu. Dans quel cadre?
C'est un hommage où on a fait un montage dans mes deux documentaires, le long métrage Voyage au singulier à travers le cinéma français et puis la série Voyage au pluriel, c'est tout ce qui concerne les compositeurs de musique. Je suis peut-être le premier à faire autant l'accent, à mettre autant l'accent sur les compositeurs de musique, sur les le nombre de chansons écrites par les metteurs en scène. Là, qui est un trait, une des caractéristiques du cinéma français. Donc, je crois que la SACEM a voulu mettre ça en lumière.
Vous en avez écrit des chansons?
Oui, j'en ai écrit deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le courage une fois d'en écrire deux, puis que j'ai jamais. Pour Coup de torchon,
elles étaient chantées par Stéphane Audran.
Oui, la Java de la masochiste. La Java de la masochiste et par Isabelle Huppert, La chambre vide. Et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais osé. J'ai préféré faire appel à Jean-Roger Cossimon ou à Jean Cosmos. J'ai jamais récidivé, mais j'en ai écrit deux. J'adore la chanson. Et voilà, donc il y a toute cette partie-là, cette partie de film a déjà eu une influence, c'est que l'orchestre de Radio France a fait trois concerts rendant hommage aux compositeurs de musique de film et retrouvant, grâce à Bruno Fontaine et à Louis Dunoyer, des partitions qui étaient perdues par les éditeurs, égarées par les éditeurs, et ce qui fait qu'on a pu, pour la première fois, entendre, depuis 1937, la musique de La Grande Illusion, celle de La Vérité sur Bébé d'Onge ou de Justin de Marseille.
Donc, à Cannes, dans quelques jours pour vous, Bertrand Tavernier, vous restez avec nous. Je signale donc que Les Furies de Niven Busch est paru chez Actes Sud. On va parler cavale, on va parler braquage dans quelques instants avec François Besse.
The trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. Maricopa, say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington received their briefing proof. While Letty fills the pipelines in a Detroit County school, and I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn.
Morning in America de la soul rétro et politique pour Duran Jones and the Education, la programmation Evening in Maison de la Radio de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
34 heures de cavale ce soir pour Jacques Mesrine et François Besse depuis leur évasion de la santé hier matin par ce mur d'enceinte de 15 mètres de hauteur à l'angle de la rue Jean Dolan et de la rue de la Santé. Depuis, la chasse au gros gibier se poursuit pour les hommes du Quai des Orfèvres. Bar fréquenté par la pègre à Paris et en banlieue, hôtel louche, repère de truands, aucune trace des deux fugitifs. Les anti-gangs et les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme sont pour l'instant bredouilles.
Laurent Goumard.
Cette histoire, vous la connaissez, François Besse, c'est la vôtre. On est le 8 mai 1978, il y a absolument 41 ans. Vous aviez quel âge ?
Autour de 30 ans.
Une évasion que vous racontez dans Cavale, qui vient de paraître chez Plon. Le plus difficile, c'était quoi ? Vous étiez planqué où ? Pour qu'on ne vous retrouve pas.
C'est un peu secret. disons qu'on était chez des amis.
C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne racontez pas encore. Hein,
dans 40 ans après.
40 ans après, il y a des choses
parce
que vous ne racontez pas.
Parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Il y a encore des personnes qui sont vivantes et qui sont considérées comme des complices si on devait les dénoncer et qui ne sont pas des complices pour moi, qui sont simplement des amis.
Vous comprenez cela ?
Ah, totalement, totalement.
Bertrand Tavernier n'est pas une balance non plus.
Non.
Le plus difficile dans cette évasion avec Mesrine, c'était quoi ? Vous étiez à combien d'évasions avant de le rencontrer ?
Alors, c'était pour ma part la quatrième.
Ah, lui, c'est ça.
Voilà.
Et le plus difficile dans cette évasion ?
Eh bien, simplement de trouver une personne susceptible de pouvoir être à la hauteur de tout ce qu'il y avait à faire pour sortir d'un quartier de haute sécurité.
Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir d'un quartier de haute sécurité ?
Eh bien, il fallait avoir une aide extérieure et une aide intérieure. Et bien évidemment, faire que tout coïncide pour que le jour venu, tout puisse se dérouler comme prévu.
On ne rentrera jamais dans les détails, Mario.
Moi, j'ai complètement fasciné.
Mais oui, parce qu'on ne saura pas plus que ça.
Je me dis, vous êtes évadé combien de fois ? 6 fois ?
Non, 7 fois.
7 fois.
7 fois.
7 fois. Et oui, voilà, il y a l'objet d'un livre, il y a eu des films sur des évasions célèbres. Et donc, à chaque fois, quand même, nous, on est de l'autre côté, on n'est jamais rentré dans une prison. On se dit, mais comment ils font ? Ça paraît tellement impossible.
Mais par exemple,
et là, on est un petit peu déçus, on aimerait quand même avoir un petit indice.
Par exemple, il y a quelque chose qui me sidère chaque fois, parce que c'est toujours très, très elliptique, la façon que vous racontez. Par exemple, il y a ces évasions où vous sciez les barreaux. Avec quelque chose qui s'appelle
Cheveux d'ange.
Vous savez ce que c'est un cheveu d'ange, Bertrand Tavernier ? C'est quoi un cheveu d'ange ?
Alors, c'est une scie ronde, en fait, avec deux anneaux à chaque bout, et qui vous permet de scier.
Alors, dans le texte, dans ce récit, vous en avez toujours un avec vous. Mais et jamais il n'est raconté comment ça vous est parvenu ou le travail qu'il a pu fournir pour avoir ce genre d'instrument.
Si je donnais cette information, l'administration pénitentiaire s'en servirait pour bloquer les futures évasions.
À vous protéger les futurs évadés.
Bah, disons que je prends soin de laisser à d'autres la possibilité de s'évader.
Alors, on va revenir sur ce parcours, mais d'abord une question par rapport à Mesrine, hein, puisqu'on vient d'entendre ce son. Vous revenez dans ce récit sur Mesrine et sur ce qui vous opposait. Deux conceptions de la vie et même de la liberté. Qu'est-ce qui vous opposait fondamentalement, vous et Mesrine, François Besse ?
En peu de mots, lui était quelqu'un qui voulait jouir immédiatement de la vie dans tous les registres, alors que moi, j'appréciais la vie. C'est-à-dire que j'y accordais une... Bah, quelque chose de précieux, en fait. Et le précieux, pour moi, c'était la rencontre avec les autres hommes.
Et avec les arts, avec la dimension artistique. Parce que c'est en prison que vous allez découvrir la littérature,
oui.
Le cinéma, c'était une page que je lisais hein, pendant la chanson à Bertrand Tavernier. Pendant que vous êtes en prison, vous allez voir et étudier Manu Chaimaud, Le Rayon Vert, La Talente, 8,5, Nuit et Brouillard, Les Enfants du Paradis, Le Meurtre d'un Bookmaker, Shadows, Shining, La Règle du Jeu, Le Sang des Bêtes, Le Dictateur, Acatone et La Femme des Sables, c'est-à-dire une véritable cinémathèque en prison. Vous allez aussi découvrir la philosophie.
Absolument. Grâce à, justement, un instituteur, enfin c'est pas un instituteur, c'est un professeur, qui lui-même est à un tournant de sa vie et qui désire ne plus donner des cours, mais devenir philosophe. Et il choisit un champ un peu particulier, il va tester des criminels, en se posant la question à savoir si on peut trouver des génies parmi les criminels. Et on va travailler pendant 8 années sur une œuvre qui s'appelle Spinoza, sans interruption, vacances comprises.
Bertrand Tavernier, vous êtes intervenu dans les prisons ?
Oui, plusieurs fois.
Pour montrer des films ?
Pour montrer des films, commenter des films, oui, bien sûr.
C'est essentiel.
C'est essentiel, François Besse ?
Oui, absolument. Nous avons besoin de ça. Enfin, tous les prisonniers ont besoin d'avoir accès à justement ce qu'est la culture. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur de la prison manquent de quelque chose, de l'humain. Et à travers la culture, à travers les visites, eh bien, vous avez cette capacité de pouvoir devenir citoyen, redevenir citoyen si vous ne l'avez jamais été.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre, outre les cavales, outre les braquages, outre, bien sûr, les séjours en prison, c'est aussi le regard que vous avez sur l'évolution de la prison pendant toutes ces années, parce que quand même, vous avez traversé pas mal d'époques. Et notamment, il y a une photo qui m'a intrigué. Je vous la laisse commenter. C'est un face-à-face. Vous êtes dans votre cellule avec une femme au chignon.
C'est madame Hélène Dorlac qui était la personne qui était chargée par... Monsieur Giscard d'Estaing, de réorganiser le système pénitentiaire français pour le copier en fait sur le système américain, c'est-à-dire premier délinquant, récidive, et puis personne que l'on ne remettra jamais en liberté. Possibilité de quartier de haute sécurité, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que tout bascule, puisque ça devient justifié par une continuité de la punition et de la surveillance.
Pourquoi vient-elle vous rencontrer ?
C'était certainement pour se faire un peu de pub.
Pas que ça aussi, c'est-à-dire que vous aviez été aussi à l'initiative d'un grand débat qui avait eu lieu dans les prisons dans les années 70 aussi.
Oui, sauf qu'elle est venue 8 mois plus tard.
8 mois plus tard,
Donc, oui. Et le résultat de la grande consultation genre gilet jaune de l'époque, eh bien, ça n'avait rien donné. Mmh. Absolument rien donné. Donc, quand elle vient simplement voir une personne dans une cellule parce qu'on lui a dit que c'était un détenu modèle.
Vous vous souvenez de cette période, justement ?
Je me souviens de cette période, mais je trouve qu'il y a une grande continuité politique dans le fait que les politiques, et surtout récemment, n'ont jamais abordé vraiment le problème de la prison, et que les derniers ministres de la justice ont été complètement nuls là-dedans. Complètement nuls. Que la France est continuellement... attaqué, puni par la Cour de justice européenne.
Condamné même.
Oui, condamné, que tout ça ne paraît absolument pas troublé, que ce soit M. Macron ou M. Hollande, mais pas du tout, pas le moins du monde, mais que la prison souffre, au même titre que la justice, au même titre que les professeurs, au même titre que les infirmières, et au même titre que les policiers de terrain aussi, d'une absence totale de moyens et de réflexion sur leur travail.
Réflexion profonde sur les causes qui amènent des personnes en prison. Oui. Parce que c'est social. Les personnes qui sont enfermées ont commis des crimes, ont commis des délits. La loi est là pour, effectivement, les identifier.
Même si vous, quand vous arrivez pour la première fois en prison, il n'y avait eu aucun délit.
Alors, l'histoire est un peu, tout petit peu plus complexe, puisque, a posteriori, j'ai un délit.
Oui.
C'est celui d'avoir hébergé quelqu'un qui commettait des cambriolages la nuit. J'en étais totalement ignorant, mais cela n'a pas suffi pour... la justice de cette époque-là, qui, bien évidemment, était rendue par une cour d'assises bourgeoise. Je dis bourgeoise parce que...
Oui, parce qu'il y avait une lutte des classes entre...
Il y avait, à l'époque, une véritable
lutte... Les condamnés comme vous,
voilà,
qui venaient d'un milieu social très précaire.
Quand des cambrioleurs s'attaquaient à la propriété, ils étaient d'autant plus punis que, effectivement, la propriété était sacrée. Donc, je me retrouve avec une condamnation à 7 ans de réclusion criminelle, alors que je n'ai fait qu'héberger une personne.
Sans avoir signé d'aveu, alors même qu'on imite votre signature.
Absolument. Donc, et puis à l'époque, il y avait aussi la possibilité de torturer pour faire avouer.
Ce que vous avez...
Puisque, à l'époque, l'aveu était la reine des preuves. C'est-à-dire que pour la justice, quelqu'un qui avoue ne peut plus se rétracter après.
Quand bien même les aveux avaient été forcés, falsifiés,
et
ou
il
même
a fallu,
trouvés
il a fallu,
sous la torture,
il a fallu
ce qui
attendre,
a été votre cas.
Et il a fallu attendre, il n'y a pas très longtemps encore, monsieur le juge Juan Ruibeck, qui dit « C'est grâce à l'ADN que nous avons pu faire libérer une personne qui s'était accusée de viol, elle-même et son ADN n'étaient pas présents. Nous avons pu le libérer grâce à ça. Sauf qu'il a fallu attendre la technologie d'aujourd'hui pour pouvoir innocenter des personnes. Imaginez dans les années 70.
Dans les années 70, c'est là où vous, d'ailleurs, vous commencez le récit sur cette arrestation. Vous avez déjà écrit pas mal de livres. Hein. Le premier, c'est en 84.
Jamais.
Je suis un bandit, c'est pas vous ?
Non.
Ah bon ? C'est donc le premier alors ?
C'est le premier fait de ma main.
Ah d'accord. Les autres ?
Les autres ont été faits sans moi et par des personnes qui ont interviewé un membre de ma famille une fois. Et puis voilà. Mais moi, je n'ai jamais rien écrit.
Alors aujourd'hui, ce sont les confessions de François Besse. On apprend tout ou presque manifestation. Marion Guilbeault sera toujours en train de douter des informations qui peuvent être données puisque c'est pas jusqu'au bout. Vous restez avec nous, François Besse. Je rappelle que Caval vient de paraître chez Plon. Est-ce que tout de suite, Marion va faire votre algorithme?
Bonjour.
Bonjour.
D'avoir Marion.
Vous avez rendez-vous ?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique ?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits.
Phil Collins, Kate Jarrett.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart ?
Oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Sur France Inter.
Marion, vous nous resituez cet exercice de l'algorithme ?
Eh bien, c'est très simple, François Besse. Je vais plonger dans votre ADN musical. Qu'est-ce que vous avez écouté ? Qu'est-ce que vous aimez ? Et puis, je vais vous proposer quelque chose de nouveau à découvrir. Alors, votre ADN musical, à vous, il est intimement lié à celui de votre mère qui jouait du piano et qui possédait une collection de disques classiques. Mais votre premier choc musical, personnel, c'est à 14 ans, avec un concert, ou plutôt une performance, d'un chanteur.
Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, c'était dans quelle salle de concert que
alors,
vous l'avez découvert?
Alors, ce n'était pas dans une salle, c'était dans un petit village juste à côté de Cognac, et c'était une performance dans la nature.
En plein air.
Dans la nature, un concert en plein air, c'est-à-dire, ouais. il était là à quelle occasion
C'était tout à fait au début, hein, c'était dans les années 58, par là.
Ouais. Et vous étiez avec qui?
Avec mon frère.
Et vous gardez quel souvenir de cette performance?
J'en suis encore ému.
Ouais, je vois ça.
Dans votre ADN musical, on trouve aussi Jean-Roger Caussimon, vous avez ça en commun avec Bertrand Tavernier, Carmina Burana de Karl Hoff, Schubert, mais aussi des grands groupes des années 60 ou 70 comme les Doors, Pink Floyd, des musiques souvent marquées par des tonalités mineures, sombres, mélancoliques, des musiques qui favorisent la rébellion, l'évasion. Et pourtant, dans votre playlist intime, il y a aussi cette chanson qui fait office de petit rayon de soleil. Let the Sunshine s'extrait de la comédie musicale Hair en 1967. Vous avez 23 ans. La philosophie hippie, vous l'avez côtoyée, vous l'avez pratiquée. Ça, c'est juste avant que vous rentriez en prison pour la première fois.
Absolument.
Ouais, c'était quelque chose à laquelle vous adhériez.
Disons que j'adhérais à cette forme de nouvelle approche de la liberté, c'est-à-dire où nous pouvions tous nous parler, échanger. Sans avoir nécessairement à devoir, c'est relaté, échanger sexuellement. Non, c'était plutôt grandir avec les autres. Et ça, moi, j'adorais.
Vous avez été hippie, Bertrand Tavernier ?
Non, je me côtoyais. Il y avait ouais. des choses que je partageais. Il y avait, c'est un peu le folklore qui a été un peu autour de là, qui m'a
éloigné
le goût de la drogue. J'étais un peu comme Claude Chabrol. Je préférais le bœuf Grossel à la marijuana.
C'est une autre drogue.
Oui.
Ni le bœuf Grossel, ni drogue, moi, pour moi.
Rien du tout. Hein. C'est vrai que vous êtes une sorte d'ascétisme.
Alors, on l'a vu, vous avez des facilités en serrurerie, en escalade, en forgeron, enfin, je ne sais pas, enfin, en tout cas, avec plein de choses, vous ne voulez pas nous dire.
En déguisement.
En déguisement. Voilà, mais vous avez, paraît-il, aussi passé un diplôme de technicien du son.
Oui.
C'est vrai, ça ?
C'est vrai.
Et qu'est-ce qui a motivé cette
envie ? Disons que c'est à nouveau une rencontre avec Nicolas Frise, qui un jour est venu et
en prison
et nous a fait découvrir effectivement cette opportunité de travailler avec une matière qui est le son.
Vous l'avez un peu utilisé ce diplôme, vous l'avez mis en pratique ?
Mais toute une période, oui, à la sortie, non, puisque je suis passé directement chez Emmaüs pendant 10 ans. Mais j'ai utilisé effectivement le son, puisque j'en avais découvert une nouvelle forme, hein, bien évidemment, écouter différemment.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, François Besse ?
Eh bien, pour l'instant, j'écris.
Ouais.
Et puis, j'attends.
Et vous attendez quoi ?
Le carpe diem, c'est-à-dire l'instant présent.
Oui, parce que vous avez aussi poursuivi des études de philosophie. Alors j'imagine, pendant que toutes ces années enfermées, vous avez eu plus que le temps, de vous retourner sur votre passé, sur les émotions du passé. Et du coup, j'ai eu envie de vous faire écouter une chanson d'un artiste d'aujourd'hui. Un des meilleurs chroniqueurs de notre époque. C'est subtil, c'est mélodique, c'est sensible, c'est empathique. Il a vraiment ce talent pour relier l'intime au collectif.
Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade. Les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après.
Cours camarade, c'est la nostalgie d'Alex Baupin. C'est un avant-goût de son prochain album, c'est attendu pour cet automne. Et c'est une chanson, pour la petite histoire, elle a été écrite à partir d'un slogan de mai 68. C'est une commande que l'émission Full Sentimental l'année dernière lui avait faite pour célébrer les 50 ans du fameux printemps. Est-ce que ça trouve un écho chez vous, cette chanson, François Besse ?
Alors, pour le passé, oui. Pour le présent, non. Parce que aujourd'hui, il est préférable d'agir plutôt que de courir, agir pour ne pas subir.
Et au niveau de la mélodie, de la musique que vous entendez ?
Excellente.
C'est des sons que vous aimez ?
Absolument.
Merci François Besse, merci Bertrand Tavernier. Allez, on se quitte avec un dernier petit voyage. Il est signé PJ Harvey, on est en 95. Down by the water.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So
le son de la rockeuse PJ Harvey. Tiens, c'est bizarre, on va en parler dans quelques instants dans la deuxième partie de notre débat avec la place des femmes dans la musique. Car pour l'instant, l'ENRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans quelques instants, dans 15 minutes précisément, après le journal. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.